C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité social media. Aujourd'hui, on parle de Netflix, qui storytell le sport. Et pour m'accompagner, eh bien, je suis avec le plus sportif de mes chroniqueurs, si je puis dire, Adjane Chely. Salut Adjane.
Ça va Thibaut, tu vas bien?
Très bien.
Eh ben, écoute-moi aussi.
J'ai hâte, cet épisode me passionne. J'ai pris beaucoup de temps à le préparer parce que je me suis rematé des trailers et tout.
On va essayer de pas faire un épisode de 45 minutes, mais ça va être difficile. Ouais, c'est vrai que ça nous fait kiffer. Hein. Nous, on aime... aujourd'hui, on va parler de comment, tu l'as dit, comment Netflix storytell le sport, que ce soit d'abord à travers Formula One, puis Point Break avec le tennis, Full Swing avec le golf, et aujourd'hui, bah, quelque chose qui nous passionne tous les deux, le Tour de France, qui va être raconté par les mêmes équipes de Netflix et diffusé à partir du 8 juin, là, en prémisse du Tour de France. Donc forcément, nous, on est ultra excités, ultra bouillants. Donc on a essayé de décrypter qu'est-ce qui fait le succès de toutes ces séries. Hein. J'ai même plus envie de dire documentaire, j'ai envie de dire série, on va voir pourquoi. Comment ça se fait que ça cartonne autant, comment ça se fait que le doc sportif, doc de sport comme ça, touche un grand public assez largement. Voilà, c'est quoi la force de Netflix pour arriver à faire cartonner ces programmes-là, quoi.
Formula One, Full Swing, Tour de France, bientôt Netflix cartonne avec ses séries dédiées aux grands événements sportifs. Hein. Et par la même occasion, la plateforme, elle a inventé un nouveau genre. Et ça, c'est fascinant, un genre qui est un peu aux frontières du documentaire et du cinéma. C'est pas du sport en direct. Ce ne sont pas vraiment des documentaires. Il y a un storytelling, il y a des cliffhangers, il y a sans doute aussi un peu de mise en scène, on va en parler. C'est presque de la télé-réalité, si on peut dire. Et dans cet épisode, effectivement, on va décrypter cette nouvelle vague de l'entertainment sur le grand écran de nos salons, comment tout ça se répercute sur les réseaux sociaux. Et puis on va aussi se pencher sur les ingrédients qui font la recette de ce storytelling, parce qu'il y a sans doute des choses dont on peut s'inspirer à ramener ça dans sa création de contenu à soi. Avant de commencer, si tu veux bien, Adjane, j'aimerais qu'on parle de Box to Box Films. Est-ce que tu connais Box to Box Films? Parce que ce sont les petits gars qui se cachent derrière tout ça. C'est eux qui ont réinventé la narration sportive. À première vue, le sport, ça a toujours été une narration. Ça, c'est quand même ce qu'on peut se dire. On va en reparler, je pense, après.
C'est ça qui fait son succès, en tout cas, à chaque fois.
Exactement. Il y a les héros, il y a les méchants, il y a les triomphes.
Les gagnants, les perdants.
Les triomphes sur l'adversité.
Leader,
exactement. Ah. Les victoires de dernière minute, bien les sûr. Hold-up, les remontadas, etc. Le Tour de France, c'est shakespearien. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. La Formule 1, c'est aussi une intrigue qui progresse.
Toute l'année.
Depuis tour après tour, clairement. Et il y a 6 ans, il y a un cinéaste du nom de Paul Martin qui a créé une structure qui s'appelle Box to Box Films. Et ce mec, il a une idée. Il invente un nouveau format. L'idée, elle est simple. C'est produire des émissions sportives qui traiteraient de sport, mais le sport, ça serait la trame de fond, ça serait un élément secondaire, une trame, un décor si on veut, un décor qui laisse la part belle aux personnages et à l'histoire. Et aujourd'hui, Box to Box Film, c'est cette boîte-là qui se cache derrière toutes ces grosses productions audiovisuelles qu'on voit actuellement et qui cartonnent sur Netflix. Ils ont sorti d'abord Formula One, qui a été un carton monstrueux, Make or Break, qui parle de surf, Full Swing, qui parle de golf, et prochain à venir, le Tour de France. Donc, success story monumentale autour de Box to Box Films. Je vous mets quelques liens en note de cet épisode si vous voulez aller voir leurs autres productions.
Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'ils sont allés chercher ce qui fait le sel du sport, ce qui fait que ça plaît autant, que ça passionne autant. C'est effectivement ces retournements de situation. On se rappellera toute notre vie dans le football de France-Italie 2000 où la France égalise à la dernière seconde et remporte l'Euro 2000 au but en or. On s'en souvient, c'est marqué dans nos rétines parce que c'est des ascenseurs émotionnels en fait. Et t'as raison, la Formule 1, peut-être que s'ils ont commencé aussi avec ce sport-là qui a cartonné sur Netflix, c'est aussi parce que la Formule 1, c'est tout simplement un sport spectacle déjà de base. C'est-à-dire que c'est un sport qu'on a que les instances de la Formule 1 n'ont fait que réformer pour essayer de la rendre toujours plus intéressante à suivre, parce qu'il y a eu des années de Formule 1 où on s'ennuyait et c'était vraiment l'ennui total avec juste des voitures qui tournent les unes après les autres, qui se doublent jamais, etc. Et ils ont inventé des nouvelles règles par-dessus, puis des nouvelles règles. C'est pas comme le football qui a des règles ancestrales depuis 100 ans. C'est un sport, là, pour le coup, la Formule 1, qui est fait pour le spectacle, qui est tourné pour la télévision. C'est même plus agréable de regarder un Grand Prix de Formule 1 à la télé que dans un stade. Donc tout est fait pour que ce soit télévisé, spectaculaire.
Oui, sauf que sur Netflix, c'est pas du sport en direct, c'est mieux. Non. C'est mieux parce que Netflix, effectivement, multiplie actuellement les projets sur le sport, mais refuse finalement de se lancer dans la très chère retransmission des compétitions en live. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme positionnement, parce que le sport en direct, tu l'as dit, effectivement, il a toujours été, ça a toujours été un spectacle, puis ça a toujours été un spectacle axé sur la performance et le résultat. Et là, Netflix a pris un angle différent, notamment sous l'influence de cette boîte de prox Box to Box Films, parce qu'avec ces nouvelles séries documentaires, la narration, elle se concentre davantage sur les histoires, les personnages, etc. On peut parler de Formula One.
On peut peut-être revenir sur le Drive to Success de Formula One. Tout a commencé le 8 mars 2019 avec la diffusion de la première saison de Formula One. C'est 10 épisodes qui racontent la saison précédente de 2018. On est immergé dans les équipes, au sein des écuries, dans tous les retournements de situation de la saison. Alors, on suit quand même ce qui se passe sur les circuits. On suit qui est en train de gagner qui, mais en fait, à travers les yeux des acteurs qui font tout ça. On va le voir, ça c'est hyper important dans la manière de raconter. La série, c'est un véritable carton. Il y en a même qui avancent que ça a relancé l'engouement autour du sport de la Formule 1, hein, parce qu'entre 2018 et 2021, 4 saisons plus tard, l'affluence d'un Grand Prix comme celui aux États-Unis est quasiment doublée. C'est passé de 264 000 spectateurs à plus de 400 000 spectateurs sur place qui achètent des tickets. Les revenus globaux de la Formule 1 en 3 ans et demi, ils sont passés de 1 milliard à 2 milliards. Ça a doublé, ils ont doublé leurs revenus. Donc on voit bien qu'il y a eu un vrai effet autour de la série Netflix. Et ça, c'est un truc vraiment dont Netflix aussi a le secret, de créer des séries populaires qui relancent des genres, que ce soit avec Formula One. Mais si on sortait du sport, on pourrait parler d'Arsène Lupin et Omar Sy. Il y a plein de livres Arsène Lupin qui se sont vendus après cette série. Il y a plein de jeux d'échecs qui se sont vendus après The Queen's Gambit. Donc il y a vraiment cette force aussi de Netflix d'avoir tellement de gens abonnés à sa plateforme que quand ils sortent quelque chose de bien produit, de costaud comme ça, ça relance quelque chose d'indéniable. Et sur la Formule 1, notamment chez les jeunes et puis chez les femmes, qui étaient des publics qui étaient un petit peu moins touchés par ce sport, qui ont connu des augmentations d'affluence vraiment importantes. Canal+, qu'on a profité aussi, plus 27% sur ses audiences avant Formula 1, après Formula 1. Bref, on va s'arrêter là sur les chiffres. C'est un succès qui est immense, Formula 1.
Ouais, et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'aussi pour les organisateurs d'événements sportifs, c'est aussi plutôt un bon deal. Donc tu l'as dit, ça relance effectivement une franchise, la franchise F1 qui était
un peu essoufflée.
Mais notamment, ce qu'il y a de fascinant quand même dans cette histoire, c'est qu'elle est cette franchise F1, le sujet de la F1, c'est complètement à contre-courant de ce que on vit, du monde dans lequel on habite en 2023. Ah, on parle d'un sport extrêmement polluant, qui est extrêmement misogyne, qui est très peu inclusif, qui est un sport d'élite, et c'est quand même étonnant de voir la force de la narration, du storytelling pour faire remonter l'estime autour de ce sport. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis aussi, la série documentaire, c'est aussi un moyen de rajouter des droits additionnels aux droits de diffusion en direct. Ça, je trouve ça génial aussi. C'est-à-dire, je vais diffuser deux choses, je vais dealer deux choses, je vais dealer les droits en direct. Je vais dealer après les droits de retransmission un an après, puisque Formula One et toutes ces fictions
de Grand Prix quand même,
sont des retransmissions qui se font un an après. Ça, c'est très intéressant dans la gestion d'un événement. Je pense que ramener à nos métiers, dans la gestion d'un événement, de voir comment, en fait, un événement qui s'est passé il y a un an, je peux le retravailler en storytelling l'utiliser comme teaser de mon année future.
Ça, pour moi, c'est un des secrets de la réussite, c'est le timing. Il y a un timing autour de leur série, de leur sortie de série, et ça, c'est un enjeu qui est primordial. Une saison de Formule 1, ça se passe de à peu près fin mars, début avril à fin novembre. Donc, ça s'étire comme ça sur toute l'année de, on va dire, 2022, l'année dernière, et puis arrive début novembre, plus de Formule 1. Donc toi, si t'es fan de Formule 1, novembre t'en as pas, décembre t'en as pas, janvier t'en as pas, février t'en as pas, ça fait 4 mois et demi que t'as pas vu de Formule 1. t'es en manque de, tu vois, si t'aimes ce sport, si t'as envie de regarder, t'es un peu en manque de ces voitures qui tournent, de ces personnages principaux, de ce qui se passe, etc. Et bah là, c'est eux, ils sortent à ce moment-là leur série, juste avant que la saison reprenne. Donc en fait, pendant le dernier mois de trêve, ce qui fait que toi, ça te permet de revoir de la Formule 1 un mois plutôt que ce que tu faisais les autres années. Donc t'es super content de mettre play et de te refaire toute la saison précédente. Comme un peu un rappel, tu vois, dans des séries, tu vois, quand t'as une série, je sais pas, Game of Thrones qui sort, ils te font 15 minutes de début de saison où ils te rappellent la saison précédente.
Previously.
Et bah, c'est exactement ce qu'ils font eux sur 10 épisodes, un mois, et en fait, à la fin, boum, t'as la saison de Formule 1 qui commence et t'enchaînes.
Et ramener à d'autres métiers, d'autres industries, d'autres projets plus modestes, en tout cas des projets de marque, on voit très bien aussi comment il y a un sujet autour de l'événementiel à désaisonnaliser, ou en tout cas à étendre la possibilité d'exploiter ce temps fort événementiel. Et donc, tu peux tout à fait imaginer, effectivement, avoir si tu as un événement annuel, retravailler cet événement, le retranscrire à nouveau en préambule de ton événement de l'année. Donc, je trouve ça très intéressant. Juste pour finir sur Formula One, il y a aussi un truc magnifique, c'est que le sport automobile, c'est originellement une stratégie de communication pour les marques dès le départ.
Bien sûr.
Les marques, parce qu'il y a
plein de sponsors.
Non, mais déjà, il y a des marques qui se sont fondées, qui sont, comment dire, qui fondent leur image sur le sport auto. Aston Martin, Ferrari, ces marques-là, elles n'existent que, leur existence même existe que par le sport auto.
Personne, il n'y a pas grand monde qui achète des Ferrari. Quoi.
Exactement. Ça, c'est autre chose. C'est un premier truc. Et puis, pour les constructeurs, on va dire plus mainstream, pour les autres constructeurs, voilà, qu'ils soient premium ou plus généralistes, eh bien, le sport auto, c'est un outil de communication depuis toujours. C'est un indispensable, c'est d'une un outil de R&D.
C'est ça, j'allais dire de recherche et développement aussi, hein, pour développer leur moteur, pour développer plein de choses qui après vous retrouvez vous en petites pièces dans votre client.
Exactement, c'est un outil de R&D et c'est aussi un outil marketing. Voilà, Renault, je trouve que c'est un très bon exemple, hein, Renault F1 qui a longtemps capitalisé sur sa présence, la présence de son écurie en Formule 1. On peut parler aussi de Citroën avec sa présence dans un certain nombre de rallyes sportifs.
Avec Club.
Et donc ça, on sent que ces événements sportifs sont déjà entre guillemets du content marketing.
Bien sûr. Alors, ce qui fait après le succès hein, de Formula One, si on continue un peu à tirer la bobine, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans le storytelling et les personnages. Et ça, tu l'as dit un peu tout à l'heure à demi-mot, effectivement, cette ambiance de Formule 1, cette ambiance de paddock, comme on dit, c'est un peu tout le décor qu'il y a derrière. C'est un peu comme quand tu regardes Les Sopranos, série culte, et que, en fait, la mafia et toute cette ambiance-là, c'est juste un décor.
Les mots sont lâchés.
Non, mais c'est juste que c'est la même manière de raconter une histoire. C'est-à-dire que dans Les Sopranos, la mafia, c'est juste un décor qui est en arrière-plan. Et puis, en fait, tu rentres dans la psychologie des personnages, dans les rivalités, c'est des histoires humaines, en fait, que tu décris. Et bah là, c'est exactement le même principe. C'est un storytelling où les paddocks, la Formule 1, le sport est en arrière-plan. Et eux, ils vont tisser une histoire à partir de ça, où ils vont opposer des personnages, créer des rivalités, entre des écuries, entre des équipiers au sein d'une même écurie, etc. Et c'est fait d'amour, de trahison, de tout ce qu'on retrouve dans le théâtre même, je dirais, presque shakespearien qui existe. Et ce qui est... c'est pas pour rien en fait que si on creuse un peu, on se rend compte que bah, y a certains pilotes, comme Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, par exemple, qui à un moment donné n'étaient pas du tout contents de l'image que renvoyait la série, parce qu'ils disaient, bah attendez, mais nous...
vous m'avez fait en Dark Vador, je suis pas Dark Vador.
Là, vous êtes en train de dire qu'on se déteste, qu'on va se battre presque, alors que ça va, c'est pas du tout ça. Oui, il y a des petites rivalités, mais c'est rien. Et il y a même des Verstappen, la grande star de la Formule 1 aujourd'hui, hein, qui alors déjà, il y a ça, il y a le fait que Formula One est arrivé sur aussi un récit sportif avec une rivalité entre Lewis Hamilton qui était un champion qui avait gagné 6 ou 7 fois et la montée d'un petit jeune Verstappen qui faisait
le futur Hamilton.
Ouais, qui fait une grosse rivalité. Et bah lui Verstappen pendant un moment, il y a une saison en 2021 où il a refusé les interviews de la production Netflix en disant bah moi en fait, j'ai pas envie c'est un show, j'ai pas envie de participer à ce show, moi je suis là pour le sport et qui lui a pris un peu le contre-pied de ça. Au final, il y est revenu hein. Il est revenu dans la série quand même. Donc ils ont bien tous conscience de ce que ça leur apporte. Quand on regarde après en détail, on voit qu'il y a des personnages comme Cyril Abitboul de l'équipe Renault avec son accent à couper au couteau qui est devenu mythique. Il y a comment il s'appelle le boss de Haas, Gunther Steiner, qui lui, pareil, on a forcément énormément d'empathie pour lui parce que dans les deux premières saisons, il a que des catastrophes qui lui arrivent.
Mais ça, cette manière de construire des personnages, c'est extraordinaire. Je trouve que là aussi, c'est une bonne leçon à tirer. C'est-à-dire quand moi, je dois raconter en tant que marque. ou en tant que créateur de contenu, quand je dois raconter des choses, quand je dois raconter une histoire, il me faut des personnages.
C'est
si
vrai.
Je n'ai pas les personnages, mon histoire, elle ne tiendra pas. Et là, si vous voulez voir une leçon du genre en storytelling, regardez Formula One, parce qu'en fait, c'est effectivement, c'est de la captation événementielle, c'est un storytelling, et tu aurais pu raconter la même chose sans les personnages et les intrigues, les petites rivalités, les petites choses qui sont montées, adaptées.
Ouais.
Ce truc-là, il tenait pas.
Et ce qui est intéressant pour monter ces personnages, je trouve, c'est quelque chose à garder, nous, dans nos métiers social media, quand on monte une web série, quand on veut raconter une histoire, un storytelling, c'est de croiser des face cam très intimistes avec après des moments spectacles, des moments effectivement plus larges. Ça, c'est un des secrets du doc sportif quand même, tu vois, qui vient de là et qui marche très bien pour raconter une histoire et mettre un personnage en position,
bah,
en place.
C'est aussi une des signatures de la télé-réalité. C'est, t'as le confessionnal et puis t'as la true life, c'est-à-dire la caméra un peu invisible qui se balade. Et c'est vrai qu'ils ont gardé cette essence-là de façon assez élégante. Ça marche très bien. Alors là, on parlait de Formula One. Parlons Tour de France, parce que nous, vous le savez, ici, on est des passionnés du Tour de France. Et là, il y a événement à venir, sorti le 8 juin, je crois. Hein.
Ouais, le 8 juin, et le principe va être le même. Timing, 8 juin à début juillet, on a 8 épisodes sur le Tour de France 2022 qui va sortir et qui va nous faire un teasing fantastique pour 2023. On va avoir un storytelling qui va être exactement le même. C'est-à-dire qu'il y a 8 épisodes, chaque épisode est sur une équipe, comme pour Formula One.
Même recette,
10 épisodes,
même recette.
10 écuries qu'on va suivre. Et à travers ce storytelling sur... ça, c'est aussi intéressant, la construction d'un storytelling. C'est comment tu vas avoir, du coup, 8 épisodes sur 8 équipes, mais qui va quand même traverser tout le Tour de France pour te raconter le Tour de France.
Oui, c'est-à-dire au lieu de
ça,
le faire
fou.
De façon chronologique,
c'est ça, linéaire,
et de se dire, en fait,
ouais.
Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 de mon événement, c'est je prends des personnalités issues de qui participent à cet événement, des personnages, et je raconte leur point de vue. C'est là où c'est sérialisé. Il y a une approche de vraiment de la série, hein.
c'est
un arc narratif perso par perso. Ça, c'est très intéressant, comme tu dis, à la ramener. Je trouve que nous, si demain on devait être sur de l'événementiel, tu peux avoir le point de vue d'un tel, le point de vue du patron, le point de vue de celui qui tient le stand, le point de vue de... c'est vachement intéressant.
Au lieu d'avoir jour
aussi.
1, jour 2, jour 3 de l'événement, tu peux effectivement avoir 3 spots différents dans l'événement par jour, etc. Il y a autre chose qui marche très bien, c'est les rivalités. Les rivalités, là, vous, ceux qui nous regardent sur Twitch, vous voyez le teasing de cette série au cœur du peloton Tour de France passé. Les autres, vous avez le lien dans les notes, donc pour aller voir ça. Mais les rivalités, c'est exactement les mêmes qu'en Formule 1. Là, on va retrouver l'année dernière, on va voir les rivalités entre Pogacar, Vingegaard, Roglic, entre
UAE et
Jumbo-Visma. Non, mais on va avoir, tu vois, il y a à la fois ces rivalités d'équipe, comme en Formula One, tu vois, des écuries. Il y a les rivalités de coureurs entre les équipes. Et puis, il y a aussi des rivalités de coureurs dans les mêmes équipes, exactement comme dans Formula One.
Et alors, je mets ma main à couper que même si vous vous en foutez du cyclisme et vous en foutez du Tour de France,
vous allez kiffer ça.
Vous allez kiffer parce que ça sera très bien fait. Et juste un mot là au nouveau sur le Tour de France. Le Tour de France, qui est magnifique, c'est que c'est un événement sportif qui a été inventé lui aussi, comme la Formule 1, pour faire du contenu, pour faire du content marketing. Juste un petit rappel là-dessus.
Du publishing.
Exactement. Juste un petit rappel, cette épreuve sportive du Tour de France, elle a été créée de toutes pièces en 1900 par un journal. Ce journal, il s'appelle L'Auto. Voilà, L'Auto.
Qui est l'ancêtre de l'équipe.
Qui est l'ancêtre de l'équipe, qui aujourd'hui est encore l'organisateur détenu par ASO, qui est encore l'organisateur du Tour de France. Ouais. Et L'Auto, à l'époque, en 1900, c'est un journal qui discute de sport automobile. Tiens, c'est rigolo. Sauf que l'été, il n'y a aucune actualité. Il n'y a pas de course, il n'y a rien, il n'y a pas de sortie de nouveaux véhicules, il n'y a rien du tout à raconter. Et du coup, il y a le fondateur du journal qui s'appelle Henri Desgranes. Il est emmerdé parce qu'il dit, pendant ce temps-là, je ne peux rien publier, je n'ai rien à raconter. Il faut que je trouve une bonne idée. Et bien, l'idée qu'il a, l'idée géniale, c'est de créer cet event, le Tour de France, en vélo, pour occuper les pages de son journal en plein été. Et le vélo devait être un alibi. Le décor est un alibi pour trouver un format de narration. Ouais. Un narration qui mettrait, étrangement, la voiture au cœur. Parce que c'était ça, le récit. On suit en voiture
des gens qui font du vélo.
et l'épreuve, elle a vraiment été, d'ailleurs, façonnée, sculptée pour être racontée. Tu parlais tout à l'heure de comment la Formule 1 a été petit à petit, l'épreuve sportive a bougé pour être davantage racontable, davantage exceptionnelle. Et bien, c'est la même chose pour le Tour de France dès les fondements. La durée, par exemple, 3 semaines de cet événement, elle a été travaillée pour remplir pendant 3 semaines les pages d'un journal. Hein.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le point de départ. Le caractère aussi exceptionnel de la course, hein, 3500 km de course. Pareil, l'idée, c'est d'offrir un décor parfait pour une saga épique passionnante à lire, avec là aussi des rivalités, des héros, bien des sûr. Perdants, etc.
Et puis avec, je pense, sur le Tour de France aussi, il y avait tout un plan un peu marketing de traverser la France.
Exactement, ouais. Parce qu'effectivement, le caractère itinérant de cette course, elle a vocation à rameuter des sponsors qui vont pouvoir se rendre visibles aux quatre coins de la France. Et la France, à l'époque, elle n'est pas si desservie que ça. Donc, c'était intéressant d'aller au contact de ses clients. Voilà, dès le départ, le Tour de France, c'est du content marketing.
Eh oui, on est en 1900, il n'y a pas Internet. Hein, donc, quand on a envie d'aller toucher des gens dans le Loir-et-Cher, dans la Garonne, et puis dans les Bouches-du-Rhône, il faut y aller. Quoi. Non, c'est ultra intéressant. Peut-être en conclusion, moi, je dirais que les limites un petit peu de tout ça, c'est qu'on est... quasi plus près de la fiction que du documentaire. Je pense que, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est du documentaire qui n'est pas fait par des journalistes, mais c'est plutôt du documentaire qui est fait par des réalisateurs et des producteurs quasi de cinéma. Tu vois.
C'est le cas, hein, en l'occurrence. Hein.
C'est des mecs qui ont plus l'habitude d'écrire un storytelling que de suivre un événement sportif. Donc ça, on le ressent bien, mais ça rend encore plus intéressant cette série. Après, ce qui peut aussi être dommageable, c'est entre guillemets, c'est si la série devient plus intéressant que l'événement lui-même. Et tu vois, la Formule 1, alors le vélo, je pense pas que ça va le faire, mais la Formule 1, moi, ça commence à me faire cet effet-là de, je regarde la saison de Formula 1, tu vois, la saison est un peu incroyable, ah, et ouais. En fait, l'événement lui-même, après, sur tout le reste de l'année, si t'as pas une saison où t'as une rivalité jusqu'au dernier Grand Prix entre deux mecs, tu dis oui, bon, en fait, c'est un peu chiant.
Tu sais, c'est ce que travaillent très bien d'autres organisations sportives, comme l'UFC, par exemple.
Ouais,
ils
ouais.
ont très bien compris ces arcs narratifs bien de sûr. Rivalité, de c'est storytelling, vrai. De personnages. Et c'est ce qu'ils intègrent au cœur de leur saison sportive toute l'année. C'est ce travail-là, les rivalités. Et là aussi, ils ont façonné l'épreuve sportive pour que ça soit un storytelling.
Effectivement, écoutez, j'espère que vous irez regarder cette série sur le Tour de France
nous,
ça, sur Netflix, parce que ça va être incroyable.
Les amis, un énorme merci à vous. On vous souhaite un très très bon week-end. Si
yes.
J'en profite. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify, balancez 5 étoiles avec un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à partager le Super Daily avec vos potes autour de vous. Et puis, on vous donne rendez-vous, pas dès lundi, mais dès mardi, parce que lundi, c'est férié. Hein.
Eh oui,
donc, dès mardi, en direct sur Twitch à 9h du mat. Salut tout le monde.
Allez, bon, j'allais dire, si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, laissez-nous une petite note.
Je viens de le dire. Je viens de le faire.
Pardon,
ah là, c'est bon,
non,
tout est dit.
Ah là
tout
là
est dit.
Là
bah,
là j'ai lu des commentaires Twitch. Pardon,
allez,
excusez-moi.
Bon week-end à tous. Salut, ciao, bye bye.